place quand ils ont reçu les boîtes à chaussures. J'avais près de 500 enfants et je peux vous dire qu'ils étaient dans l'émerveillement, la joie de recevoir, d'ouvrir les boîtes, que les gens aient pensé à eux. Donc, vous faites une différence dans la vie d'un enfant. Des fois, on le fait, on n'a pas l'impression d'où ça va, mais je peux vous le garantir, ça marque la vie des enfants. Alors, bravo pour ceux et celles qui ont participé à cette opération-là. Et j'aurais quelques petits cadeaux, moi aussi. Vous avez été tellement généreux avec moi que j'aurais des cadeaux à vous offrir. J'aurais ici un livre. En fait, ça va, je crois que ça va être votre futur livre en plus, hein, pour la tribu qui s'appelle Inébranlable. Et en fait, ça fait des fois un peu prétentieux de dire, franchement, elle a écrit un livre inébranlable. Elle se prend inébranlable. Dis à ta voisine, ça n'a rien à voir. Ou à ton voisin, ça n'a rien à voir. En fait, vous savez, il faut avoir été ébranlé pour devenir inébranlable. Et c'est une promesse de Dieu. Dieu le dit, hein, que lorsque nous aurons souffert un peu de temps, il va nous fortifier, il va nous rendre inébranlable. Mais juste pour donner un avant-goût de ça, parce que vous allez faire tribu ensemble, est-ce qu'il y a une femme dans ce lieu qui voudrait être inébranlable? Ouais! Ah, toi, la... Là! OK! OK, j'ai... J'ai un autre... Est-ce qu'il y a des... Ah! Attendez! Est-ce qu'il y a des scientifiques dans ce lieu? C'est un livre... Moi, je suis professeur en... J'étais professeur en biochimie. Science et foi. Comment concilier la science et la foi? Et le tout dernier bébé... Ils sont à l'arrière, si vous voulez, mais le dernier bébé qui vient de sortir tout chaud, espoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'espoir? Ouh! Ah! Que soyez bénis. Le titre de mon message, peut-être je vais vous surprendre ce matin, et peut-être je voudrais juste vous demander, vous avez été tellement généreux envers moi, merci pour votre amour, vos témoignages, merci. Et j'aurais peut-être une faveur à vous demander, Église des Nations, puisque vous portez bien votre nom. Je quitte jeudi pour Congo-Kinshasa, pour une grande église qui s'appelle l'Église La Borne, près de 10 000 personnes qui prient dans cette église-là. Il y aura une grande, grande conférence pour femmes qui va rallier des milliers, quelques milliers de femmes. Est-ce que je vais pouvoir dire à mes sœurs à Kinshasa qu'il y a une église ici à Québec qui prie pour elles? Alors, je vous recommande à nos prières pour que Dieu puisse agir vraiment dans cette église. Amen. J'ai des partenaires de prière ici?
Amen.
Et je sais que les femmes ici, ça prie. J'ai vu hier, c'était divin, l'équipe de louange, c'était extraordinaire. Et le titre de mon message, peut-être que je vais vous surprendre, mon titre c'est « As-tu déjà... perdu l'espoir. » Je l'ai dit hier, je sais que ici, les femmes à la retraite et les gens dans ce lieu, vous êtes extrêmement spirituels. Et que je sais que vous aimez Dieu de tout votre cœur. Vous adorez Dieu de tout votre cœur. Mais partout où je vais, j'aime le dire. Moi, je suis pas ici et on le fait pas pour jouer à l'église. On est ici pour être touché par Dieu. On n'est pas ici pour s'impressionner. Moi, je suis pas ici pour vous impressionner parce que vous allez être déçus. Et vous êtes pas ici pour m'impressionner. Alors, tout de suite en partant, je veux dire, vous êtes hyper spirituel. Alors, dis à ton voisin, ta voisine, t'es super spirituel ce matin. Super spirituel ce matin. Mais si je me permets d'être cœur à cœur avec vous, si on est honnête, même si on aime Dieu, il est possible parfois de perdre l'espoir. Et les plus grands héros de la foi ont déjà perdu espoir. David, en psaume 42, c'est écrit, hein, il a dit, « Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » En fait, David est en train... Pendant qu'il traverse une période de désespoir, où il a perdu l'espoir, il parle à son âme et il dit à son âme, « Espère encore en Dieu. » Et même Jésus, notre modèle, quand il est à la croix, il va dire, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Même s'il savait que c'était sa mission, il est possible de perdre espoir. Et moi, si je suis honnête avec vous, si je suis transparente, il m'est arrivé de perdre l'espoir. Tout récemment, juste avant la COVID, moi, j'ai pris une décision de foi. J'ai fait un pas de foi. J'ai laissé mon... Moi, je suis pasteur à l'Église Nouvelle Vie depuis 2000. Ça fait 20 ans. J'ai pratiqué le ministère pour impliquer pasteur des femmes pendant 20 ans à l'Église Nouvelle Vie, une des plus grandes églises du Québec et même de la francophonie hors Afrique. Et le Seigneur m'avait dit, j'avais déjà fait un pas de foi, moi, dans les années 2000. J'ai laissé ma carrière de scientifique. Je suis une biochimiste de formation. Je travaille en pharmaceutique. Et en 2000, j'ai laissé ma carrière pour me consacrer à servir le Seigneur à temps plein. Et en 2019, juste avant que la COVID arrive, j'ai pris cette même décision-là. Vous allez dire, oh, la Québécoise, elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais Dieu, je voulais obéir à Dieu. Et Dieu m'a dit, Stéphanie, je t'appelle en 2020 à parcourir la francophonie, à être attachée. Je suis toujours pasteur à Nouvelle Vie, mon mari est pasteur là-bas, mais j'ai fait un pas de foi et j'ai laissé mon poste de pasteur. Gloire à Dieu! Dites-vous, c'est fantastique, hein? Et le pasteur Luc Dumont, je sais pas si vous connaissez, qui est à Exponentiel, en janvier 2020, fait une prophétie extraordinaire. Stéphanie, je te vois à travers les nations. Amen! Et un petit détail que mon ami pasteur a oublié, c'est qu'il y a eu la COVID. Et alors que j'étais bien bookée partout, mon agenda était plein, que j'étais justement aux Philippines, j'étais avant COVID, là, en masque Kinshasa. Et là, vous voyez, la photo que vous voyez, ça c'est moi, quand je suis rentrée de Kinshasa en mars 2020, j'étais seule dans l'avion. Alors Stéphanie, maintenant, elle voyage en jet privé, là, si vous ne me croyez pas. Et pas en classe affaires, c'était comme une classe affaires. Hein. Mais on rit aujourd'hui. Mais quand j'étais dans cet avion-là, on sentait, c'était comme la fin des temps, l'apocalypse. On a traversé, si vous êtes d'accord avec moi, les deux dernières années ont été extrêmement difficiles. Qui avait pu prévoir tout ceci? Ça a affecté l'Église, ça l'a affecté partout dans nos vies. Et en ce moment, la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça. Alors, toute cette période-là de ma vie, quand je suis arrivée de Kinshasa, j'étais peut-être comme la plupart d'entre vous, moi, j'étais en isolement forcé, puisque j'arrivais de l'étranger. Et là, je me suis mis en mou, est-ce que vous dites ça ici, en jogging suit. Et là, je me suis mis à écouter François Legault, n'est-ce pas? Journée après journée, et je me suis dit, ma vie est finie. Mon appel est fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous dis honnêtement, pendant un mois, j'étais devant ma télé, paralysée. Et je me suis dit, j'avais perdu espoir. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Il faut, je ne choisis pas, je peux pas choisir ce que je vis en ce moment, mais je peux choisir qu'est-ce que je vais faire à travers ce que je vis en ce moment. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'écrire ce livre Espoir. Savez-vous que le livre Espoir était déjà dans mes cartons? Tout le plan était fait avant la COVID et j'avais dit à mon mari, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a toujours eu besoin d'espoir, mais je pense qu'on va avoir besoin d'espoir plus que jamais. Et tout le plan était fait, les voleurs d'espoir, le temps, les épreuves, tout le plan était fait. Et quand COVID est arrivé, dans mon désespoir, je me suis mis à écrire un livre sur l'espoir. Et c'est exactement ce que je veux te partager aujourd'hui. Il est possible de recevoir cet espoir, peu importe ta situation. La parole de Dieu le dit en Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu, aujourd'hui, veut te donner de l'espoir. Le Dieu de l'espérance est ici, dans ce lieu, pour te donner de l'espoir, non pas en petites gouttelettes, mais en abondance. Et je ne sais pas comment tu es venu dans ce lieu, mais une chose que je peux déclarer, c'est que nous connaissons le Dieu de l'espérance. Et il est ici, dans ce lieu, pour te redonner en abondance la joie et la paix à travers ta situation. Il est le Dieu de l'espérance. On ne choisit pas les obstacles, mes amis, que nous devons affronter, mais nous pouvons choisir comment les surmonter. Et j'aimerais partager avec toi quelques clés pour te redonner, pour choisir l'espoir, parce que l'espoir est un choix à travers ce que tu vis. Premièrement, l'espoir est un choix qui ne dépend pas des émotions. L'espoir est un choix qui ne dépend pas des circonstances. Et l'espoir est un choix qui ne dépend pas de notre personnalité. Je commence avec ce point-là. L'espoir est un choix qui ne dépend pas des émotions. Docteur J.K., qui est un docteur et est une Canadienne, a travaillé beaucoup, a fait une thèse sur l'espoir. Elle a écrit « L'espoir est l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. » Et j'aimerais te dire qu'un des voleurs d'espoir, c'est nos émotions, les sentiments. Ce que tu ressens, ça ment. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ça commence à aller jusqu'en arrière, les sentiments. Et l'espoir, de plus en plus, j'essaie de vivre ma vie, non pas sur mes émotions, mais sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu elles ne changent pas. Il est le même Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce qu'il déclare, il a le pouvoir de l'accomplir. Et ce n'est absolument pas de la pensée positive, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. La Bible nous dit qu'à la croix, tout a été accompli. Le voile a été déchiré. Et aujourd'hui, si tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur, tu as accès à la puissance de Dieu. Tu as accès à l'amour de Dieu. Tu as accès à tous les trésors que Dieu a pour toi. Alors, je veux te dire aujourd'hui, l'espoir, c'est un choix qui ne repose pas sur ce que tu ressens. Ne te laisse pas voler les promesses de Dieu pour ta maison, pour ton mariage, pour tes rêves que tu as pour toi. Regarde aux promesses. Deuxièmement, l'espoir ne dépend pas non plus des circonstances. Vous êtes d'accord avec moi que quand la vie va bien, quand tout va bien, c'est plus facile d'avoir l'espoir? Hein, n'est-ce pas? Quand tout va bien, quand je suis assurée que mes ressources financières sont là, que ma famille est en santé, que mes amis sont là, c'est plus facile de croire que Dieu est tout-puissant. Mais à travers les circonstances, il est possible d'avoir l'espoir. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de héros dans l'histoire qui ont eu l'espoir, qui ont choisi l'espoir en dépit des circonstances. Je vous parle, il y en a plein, mais si on parle par exemple de Nelson Mandela, vous savez, Nelson Mandela qui a lutté contre la ségrégation raciale, il a été emprisonné 27 ans. Et dans cette prison-là, il a gardé l'espoir. Il a dit, il a écrit, j'aime cette citation, « Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand le reste est perdu. » Et je veux te dire que l'espoir, ce n'est pas le parent pauvre de la foi. L'espoir, ce n'est pas un bibelot que tu vas trouver chez Winners ou Home Sense, où tu vas mettre sur ton foyer, ou une tasse Hope. Non. L'espoir marche main à main avec la foi. J'ai foi en Dieu et j'espère les choses, que les promesses que Dieu a pour moi. Le voleur d'espoir, c'est comme cet homme dans cette prison-là, a choisi qu'un jour il serait libre, a choisi un jour qu'il allait se tenir pour son peuple, peu importe les circonstances. Et l'ennemi de nos âmes veut nous faire empêcher de voir les plans, les bénédictions que Dieu a pour nos vies. Nelson Mandela écrit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et là, tu me dis, et je peux lire dans tes pensées, là, je m'en viens dangereuse, là. Je t'entends penser un peu, tu te dis, ouais, bien, Stéphanie, l'espoir, Nelson Mandela, c'est quand même pas moi, là, quand même. Êtes-vous d'accord? Tu sais, des fois, on se dit, franchement, lui, c'est un héros de la foutue, c'est un héros, il a été capable de faire ça. Si je te disais que l'espoir n'est pas une question de personnalité, l'espoir n'est pas réservé pour une élite spirituelle. Il y en a, vous êtes nés pour avoir plus d'espoir que d'autres, c'est pas vrai. L'espoir, c'est un choix qui ne dépend pas des émotions, qui ne dépend pas des circonstances, ni de la personnalité. Si je vous pose une question ce matin, qui est dans ce lieu, qui vous avez une personnalité un peu plus optimiste? Vous voyez le verre à moitié plein? OK, OK. Levez vos mains. Super. Et moi, je vais être bien honnête avec vous. Est-ce que dans ce lieu, vous avez des personnalités plus pessimistes? C'est-à-dire que vous, le verre, il est à moitié vide. Levez la main. Bien. Et moi, vous savez, mon mari, c'est un pasteur administrateur, c'est un comptable. Alors lui, les sous, il faut que ça balance à la ligne près, tu vois. Hein, n'est-ce pas? Donc les gens cartésiens comme ça, là, on est prévoyants, donc ils voient le verre à moitié vide. Vous n'avez un comme ça? Ça fera à vous que je parle ce matin. Mais je veux vous dire que mon mari, c'est l'homme qui a le plus d'espoir. Ce n'est pas une question de personnalité. Et moi, vous devinez, moi, le verre, il n'est pas à moitié vide. Il est à moitié plein. Il déborde, moi, le verre. Alors, ça peut des fois emmener des conflits dans le couple, n'est-ce pas? Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'espoir n'est pas une question de personnalité. L'espoir, c'est une question d'un homme et une femme qui choisit de croire que Dieu est tout-puissant, que Dieu va honorer ses promesses. L'espoir, c'est pas une question, ça ne repose pas sur les circonstances. Je dis, l'espoir est un choix qui repose sur une solide fondation. C'est ce qui fait la différence entre la pensée positive, mes petites tasses hope chez Winners, et quelqu'un qui décide, je garde espoir parce que mon espoir est fondé sur une solide fondation. Le texte que je veux partager avec vous, c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 23. C'est le texte clé de mon message. Et ça dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Savez-vous, si je suis honnête avec vous et transparente, des fois, on a peine à garder espoir. On a peur de nourrir l'espoir parce qu'on a peur d'être déçu. Parce que souvent, il y a des gens qui nous ont promis des choses qui n'étaient pas dignes de confiance. Ça peut être dans un mariage, un mari, une femme. Tu as fait la promesse de t'aimer à toute la vie. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Tu as perdu l'espoir. Tu peux avoir eu des promesses à ton travail, des patrons qui t'ont, ou à l'école, ils t'ont fait miroiter des choses et tu as été déçu. Mais pourquoi nous, comme croyants, nous pouvons avoir l'espoir? C'est parce que Dieu est digne de confiance. Et lorsque, j'aime cette, dans Hébreu, c'est écrit, Hébreu chapitre 6, verset 19, « Cette espérance, elle est pour nous comme l'ancre de notre vie sûre et solide. » L'espoir, c'est l'ancre pour ta vie. Elie Strubel, qui est un journaliste d'enquête, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Case for Hope », il a écrit « L'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. Si tu mets ton espoir dans un homme, dans une femme, tu vas être déçu. Mais si tu mets ton espoir en Dieu, à celui qui a le vrai pouvoir, tu ne seras jamais déçu. C'est une ancre pour ton âme. Moi, j'ai connu Dieu et j'ai des gens ici dans la ville de Rimouski. Vous connaissez, qui connaît la ville de Rimouski ici? Hein? Voilà, j'ai des Rimouskois, des gens qui... Et Rimouski, cherchez pas à comprendre, moi j'ai fait à l'Université du Québec à Rimouski un baccalauréat en chimie. Après ça, j'ai fait une maîtrise en océanographie. Bon, dis à ton voisin, ta voisine, je ne sais pas pourquoi qu'elle a fait ça, là, mais je ne sais pas pourquoi. Les voies de Dieu sont insondables et tous ses chemins nous mènent dans sa destinée. Et écoute, la seule chose, en fait, j'ai rien maintenant aujourd'hui. Franchement, je connais rien. J'ai presque rien retenu de l'océanographie. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'on est allé faire une mission océanographique en face de Rimouski. Rimouski, le fleuve est super large. Et en plein mois d'octobre, Bon, là, on a eu un mois d'octobre assez chaud, mais à cette époque-là, il faisait froid, il ventait. Et lorsqu'on est parti en bateau, on travaillait nuit et jour et on faisait des prélèvements de sédiments au milieu du fleuve. Là, c'est plusieurs mètres de profondeur. Et là, le vent, il y a eu une tempête qui s'est levée et le vent a soufflé et le bateau, qui n'était pas très gros, commençait à tanguer à droite et à gauche. Et la seule chose que j'ai retenue, c'est mon directeur de maîtrise à cette époque-là, docteur Émilien Pelletier, que je salue, il m'a dit, Stéphanie, voyez bien que j'étais verdante, j'avais la nausée. Il dit, Stéphanie, quand tu as la nausée, il faut que tu manges des bananes. J'ai dit, pourquoi? C'est la seule chose que j'ai retenue. J'ai dit, pourquoi des bananes? Il dit, bien, parce que ça a le même goût à l'aller qu'au retour. Alors, voilà une maîtrise en océano, ce qui est merveilleux. Et enfin, je vous fais rire. Mais je fais des blagues parce que dans cette noirceur-là, Rimouski, octobre, en plein cœur du fleuve Saint-Laurent, lorsque la tempête s'est levée, le capitaine du navire a quitté et s'est rapproché du bord pour pouvoir jeter l'ancre. Et à partir du moment qu'il a jeté l'ancre, le bateau était en sécurité. Et c'est la même chose pour ta vie. Tu peux avoir l'espoir. Parce que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Il est une ancre pour ta vie. Et pour moi, qui est une scientifique, quand je regarde en qui je mets mon espoir, en qui je mets ma foi, je pense, dans mes moments les plus sombres, moi, c'est que je regarde au ciel. Et quand je regarde le ciel, les milliards et les milliards et les milliards, pas d'étoiles, mais de galaxies aujourd'hui, avec les nouveaux télescopes qu'on a pu voir. C'est fascinant. Si vous regardez, ça, c'est notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. C'est immense. Regardez, là, c'est 9,25, je pense, fois 10 à la 16 kilomètres. C'est immense. Et si vous mettez la prochaine diapositive, regardez. Ça, là, pendant des années, on a cru que l'homme était le centre de l'univers. On croyait que ce qui était lumineux, hein, c'était la Terre. Et en fait, on est, voyez la pointe du soleil, la flèche. Nous sommes comme une poussière dans cette grande galaxie-là. Et je ne vais pas vous faire de la peine, mais je voudrais vous dire, vous n'êtes pas le centre de l'univers. Dis à ta voisine, si c'est ton mari ou ta femme, là, règle tes conflits ce matin. Dis, chérie, tu n'es pas le centre de l'univers. Tu n'es pas le centre de l'univers. C'est fascinant. Imaginez, j'ai une pièce ici, une petite pièce qui, en fait, ça pourrait être $1, mais en fait, c'est une pièce, €1. Mais si vous voyez cette pièce-là, ça pourrait représenter notre système solaire. Imaginez. Et savez-vous, la galaxie, ça serait grand comment? Tout le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud, tout ça, c'est la galaxie. Et nous, nous sommes le système solaire, gros comme cette pièce-là. Et la Terre, c'est le bout, c'est la pointe, gros comme une tête d'épingle sur la pièce. Et Québec, c'est encore plus petit, sans vouloir vous offenser. Et moi, quand je vois cette grandeur-là de Dieu, ça me dit, c'est sûr qu'il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est quand je regarde aux milliards et des milliards et des... Vous savez, la planète Terre fait partie du système solaire, le système solaire d'une galaxie. La galaxie qui est constituée de milliards et de milliards et milliards et milliards, milliards d'étoiles. Et nous sommes dans un univers qui contient des milliards de galaxies. Et la Bible nous dit, hein, qui suis-je, qui suis-je, qui es-tu pour que tu t'intéresses à moi? Je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez petit. Je te dis ça ce matin pour que tu te sens grand, que tu réalises comment Dieu est grand et comment la Bible nous dit qu'il tient le monde dans sa main. En Ésaïe 41, il va dire, qui est celui qui tient l'univers dans la paume de sa main? Et dans le même texte, juste avant le même verset, il va dire, ce même Dieu-là qui tient l'univers dans la paume de sa main, prend les brebis et la colle contre son sein. Il est un Dieu puissant, mais il est un Dieu qui est personnel. Aujourd'hui, on a Google Maps, vous avez Google Earth, on pourrait... Dieu, grand Dieu de l'univers, arriver ce matin et voir exactement l'état de ton cœur. Ce grand Dieu tout-puissant voit exactement ce que tu vis, connaît chacune des journées qui te sont destinées. Et c'est juste extraordinaire parce que la Bible nous dit qu'il a créé l'univers bara à partir de rien. Ce grand univers si précis à partir de rien, il peut créer dans ta vie quelque chose de puissant à partir de rien. La Bible nous dit, hein, qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il peut aujourd'hui mettre la lumière dans les ténèbres. Dans le chaos de l'univers, ça s'est tellement bien précisé que c'est devenu un univers parfaitement défini, fin. Il peut mettre l'ordre dans le désordre. Et ce grand Dieu tout-puissant, créateur, est ici dans ce lieu. Et il est digne de confiance. Tu peux lui faire confiance. Et vous savez, récemment, si tu peux mettre la prochaine diapo, j'étais en Europe, à Paris, et sur les Champs-Élysées, alors que je sais que vous êtes désintéressés des biens de ce monde, j'ai vu quelques petites boutiques, moi, sur les Champs-Élysées, et Dieu m'a ramené à l'ordre. J'ai vu un tableau publicitaire, et c'était écrit « Et si Dieu existait ?» Sur les Champs-Élysées, il y a fait un livre qui faisait la promotion, qui venait de sortir, « Dieu, la science, l'épreuve, la science nouvelle alliée de Dieu ». Savez-vous aujourd'hui que les scientifiques contemporains, les récentes découvertes du 21e siècle, enlève presque, c'est presque nul de penser que nous sommes le fruit du hasard, que l'univers a été créé par hasard. Les scientifiques déclarent qu'il y a eu un acte de création. Il y a eu un acte de création. Les trois plus grandes découvertes scientifiques. Et dans ce livre-là, vous avez des citations de prix Nobel de scientifiques. Et moi, je me dis, moi, je connais ce Dieu créateur. Et c'était tellement fort que le magazine Figaro a fait la une en disant, ce livre, Dieu, la science, les découvertes, quand la science croit en Dieu. Il n'y a pas juste la science qui croit en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Et je crois au Dieu qui est digne de confiance. Alors, j'ai dit, pourquoi je peux avoir espoir? Hébreux 10, 23. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Si tu en doutes, regarde les étoiles, même les scientifiques commencent à croire en un Dieu créateur. Mais alors que j'arrive à la fin du message, ce verset-là est extrêmement puissant parce qu'il va dire, bien sûr, tu peux avoir confiance, mettre ton espoir en Dieu parce qu'il est digne de confiance, mais le début du passage nous dit « Restons fermement attachés. » Si l'auteur du livre aux Hébreux précise « Restons fermement attachés », c'est qu'il est possible de s'en détacher. Aucun jugement dans ce lieu. Je ne sais pas comment tu es entré ici. Est-ce que tu es resté, est-ce que face à une situation de ta vie, de ta santé, de tes enfants, est-ce que tu es en train de te détacher de l'espoir? Ça veut dire que, ça ne veut pas, peut-être pas dire que tu es désespéré ou sans espoir, mais des fois, les événements, la vie fait qu'on peut se détacher de l'espoir. Et j'ai dit, hein, l'espoir est un choix qui ne dépend pas des émotions, qui ne dépend pas des circonstances. Dans les pires circonstances, on peut avoir l'espoir, et qui ne dépend pas de la personnalité. L'espoir est un choix qui repose sur une solide fondation. Et la fondation de notre espoir, c'est ce Dieu puissant, créateur, qui nous aimait tellement, qui a envoyé Jésus-Christ marcher sur la terre pour nous, afin qu'on soit réconciliés avec Dieu. C'est lui qui est digne de confiance. Et troisièmement, l'espoir est un choix qui triomphe de toutes nos déceptions. Et le dernier passage, et je vais terminer comme j'ai commencé en te posant la question, as-tu déjà perdu espoir? As-tu déjà perdu espoir en Jésus? Non, 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 jamais, jamais. Je te posais la question, parce qu'un des tueurs d'espoir, c'est la déception. C'est quand les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais. Ça tue l'espoir. Quand on vit des drames, quelque chose de difficile, souvent on va aller en prière, on va s'accrocher à Dieu. Mais la déception, quand tu pries et que tu ne vois pas la réponse à tes prières, déception. La déception lorsque tu es célibataire, est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? Ah, mais fallait le soyez pas timide, hein, des célibataires dans ce lieu. Bon, prenez le temps de vous identifier ici. Voilà. On peut perdre l'espoir lorsqu'on attend l'homme de nos rêves ou la femme de notre vie et qu'elle ne vient pas. On peut avoir espoir quand, perdre espoir lorsqu'on on a été refusé à l'université dans un programme qu'on voulait. On peut perdre espoir quand on attend le rêve de Dieu pour notre vie. Et je dis pourquoi c'est possible de perdre espoir et être déçu de Jésus. C'est que dans les évangiles, dans la Bible, il y a une histoire où on voit même les amis de Jésus ont déjà perdu l'espoir. Et le dernier passage que vous connaissez, c'est dans l'Évangile de Luc, alors que j'invite tranquillement les musiciens à s'approcher, parce que j'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 15 à 21, c'est nos deux disciples, nos deux garçons, hommes, qui marchent sur le chemin d'Emmaüs. L'histoire, est, vous la connaissez probablement, mais je veux vous la rappeler. Ces deux hommes-là ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils l'ont aimé. Ils lui ont probablement, ils l'ont supporté. Ils ont sûrement aussi donné, la Bible nous dit, qu'ils le supportaient financièrement. Ils l'ont fait de lui, c'était leur ami. C'était, ils ont cru plus que leurs amis. Ils croyaient que c'était le roi qui venait les sauver, les libérer. Ils ont mis leur confiance, leur amour en ce Jésus-là. Et 3 ans plus tard, vous connaissez la fin de l'histoire. Mais eux, ils ne connaissent pas la fin de l'histoire. Alors qu'ils ont tout placé leur espoir en ce Jésus, alors qu'ils ont vu le miraculeux, alors qu'il était près d'eux, qu'est-ce qui arrive? 3 ans plus tard, Jésus finit cloué sur une croix. Une mort honteuse entre 2 brigands. Je ne sais pas comment vous vous seriez senti, vous. Si tu crois en Jésus, tu vois Jésus, tu espères, c'est le Messie qui doit venir, puis finalement, Jésus est mort. Il est mort pas une journée, 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Et bien sûr qu'ils y ont peut-être cru en la résurrection, mais dans la culture juive, après 3 jours, l'âme était sortie du corps. Donc, de façon intellectuelle, même pas si en écoutant leurs émotions, de façon intellectuelle pour eux, avec leur culture, c'était impossible. Possible de croire que Jésus pouvait ressusciter. Pour eux, c'est point barre, c'est fini, l'histoire s'arrête là. Et c'est pour ça que la suite du texte, ça nous dit, hein, pendant qu'ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Si on peut jouer juste tranquillement. Imaginez, Jésus commence à marcher avec eux. Et c'est écrit, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Ils sont tellement déçus, ils ont tellement perdu l'espoir que même si Jésus est à côté d'eux, ils ne sont pas capables de le voir. Et la déception, mes amis, la déception. Des fois, quand on a perdu espoir, on ne voit plus Jésus dans notre situation. Et c'est dit, hein, ils étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? » Il va dire, « Quoi donc, leur demanda-t-il, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? » C'était un prophète. Il n'est même plus le Messie qui devait venir. Jésus est redevenu comme un prophète. Si on peut juste jouer tranquillement à la guitare. Jésus, c'était un prophète qui agissait, qui parlait. Il dit, « Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. » Et ça, savez-vous, mes amis, c'est vraiment les faits. Avec leurs yeux, Jésus est mort, cloué sur la croix. Et là, ils vont dire, « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. » Même les hommes les plus près de Jésus, qui ont vu le miraculeux, lorsque la situation a l'air définitive, lorsque tout semble mort, ils ont perdu espoir. Mais la suite du texte est fantastique. Je ne la lirai pas, je vais vous la décrire. Et ça dit par la suite qu'ils ont marché avec lui, qu'ils ne pouvaient pas le reconnaître. Mais quand ils sont entrés dans une maison, ils ont pris le pain. Jésus a brisé le pain. Il était en communion avec eux. Et à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont dit, « Oui, il est Jésus, il est vraiment ressuscité. » En fait, les disciples, Jésus ne les avait jamais abandonnés. Ils avaient, à cause de la déception, leurs yeux ne pouvaient pas voir Jésus. Mais lorsqu'on entre en communion avec lui, lorsqu'on va en prière, lorsqu'ils ont vu, ils se sont rappelés en brisant le pain que Jésus, ce que Jésus avait dit, c'est qu'il fallait que je meure, il fallait qu'il meure afin que nous puissions avoir cette relation avec lui. Il fallait qu'il meure afin qu'il vienne pardonner nos péchés. Et là, ils ont compris. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut ouvrir tes yeux peut-être dans ta situation. Il n'y a aucun jugement ici, aucune condamnation. Nous avons tous, si on est honnête, déjà marché sur le chemin d'Emmaüs. Mais Dieu est capable d'ouvrir nos yeux. Et ce qui est le plus fascinant, mes amis, c'est que ce qui avait l'air le plus grand lieu de défaite, la croix avait l'air du plus grand lieu de défaite, mais au final, c'était le plus grand lieu de victoire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ta situation a l'air du plus grand lieu de défaite, ta maison a peut-être l'air du plus grand lieu de défaite, ton avenir, mais en fait, Dieu est capable aujourd'hui, ce grand Dieu créateur est capable aujourd'hui de venir t'ouvrir les yeux, de venir te redonner espoir. Pas de faux espoir, mais le vrai espoir parce qu'il est digne de confiance. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. J'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut chanter un chant avec l'équipe d'adoration? Alléluia, Jésus. Alléluia.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es.
Je vais terminer cette célébration, que vous allez retourner peut-être à toutes vos occupations aujourd'hui. J'aimerais m'arrêter un instant. C'est un moment d'éternité. J'aimerais vous demander de fermer les yeux là où vous êtes. Et j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es entré dans ce lieu et tu as perdu l'espoir pour une situation dans ta vie? Est-ce que tu es comme ces hommes sur ce chemin d'Emmaüs? Et que tu as besoin que Jésus vienne t'ouvrir les yeux. Tu as besoin qu'il vienne te redonner cet espoir. Tu as besoin ce matin qu'il te donne le don de la foi, de voir les choses qui ne sont peut-être pas encore, mais comme elles vont devenir. Car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Je crois qu'il m'envoie ici ce matin pour te dire personnellement, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu ce matin. Je te fortifie. Je te soutiens par ma droite triomphante. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Jette ton ancre ce matin dans ce qui est digne de confiance, dans les promesses et dans la parole de Dieu. Tu es fidèle. Dieu t'aime. Dieu est souverain. Tu ne fais pas exception de personne. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, peu importe ton arrière-plan, peu importe ton âge, Dieu t'aime. Et comme on l'a déclaré, il est le Dieu de l'espérance qui veut nous donner la joie, la paix et l'espoir en abondance par le Saint-Esprit. Pas par tes forces ce matin, mais par le Saint-Esprit. Dieu peut te remplir de cette espérance-là. Alors que tout le monde a les yeux fermés, juste si tu as besoin que je prie pour toi, là où tu es. Je ne ferai pas venir en avant, mais juste là où tu es. En signe d'obéissance, de dire, lève ta main, de dire, j'ai besoin d'espoir. Lève bien ta haute, comme un pas de foi, comme cette femme qui a touché Jésus à sa main en touchant le bas de sa robe. Juste lève-la, dis, je lève ma main haute, j'ai besoin, comme un signe de foi, j'ai besoin d'espoir. J'ai besoin d'espoir. Moi, je la lève pour une situation dans ma vie. Moi aussi, j'ai besoin d'espoir. Seigneur Jésus, tu vois dans ce lieu, nous sommes presque 100% d'hommes et de femmes à te réclamer, à aller vers toi, Dieu de l'espérance. Alors je te prie en ce moment, Seigneur, du devant d'assemblée vers le derrière de chaque côté, entre les rangs, Saint-Esprit, viens souffler, Seigneur. Viens souffler, tu es dans ce lieu. Tu as dit, il est avantageux que je m'en aille. J'enverrai le Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur, celui qui est tous les jours avec nous. Alors Saint-Esprit, viens en ce moment. Viens ouvrir nos yeux. Viens à mon frère, à ma sœur, viens ouvrir les yeux sur une situation. Tu viens faire renaître l'espoir, Seigneur. Tu viens te révéler, tu viens lui montrer que tu es avec elle, avec lui, Seigneur. Je te prie en ce moment que tu fasses tomber les fardeaux. Je prie, Seigneur, que les chaînes de peur, d'inquiétude puissent être brisées dans le nom de Jésus ce matin. Je prie, Seigneur, pour des miracles. Je prie pour des guérisons. Quelqu'un qui attend une guérison, Seigneur. Je prie, j'élève ma voix. Tu redonnes espoir pour la guérison, Seigneur. Tu redonnes espoir pour prier pour des enfants, Seigneur. Intercéder pour des enfants, Seigneur. Nous les réclamons dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la promesse. Alléluia, viens redonner espoir à un homme, à son travail, à un homme désespéré, un homme. Peut-être personne ne sait, sa famille ne sait pas, mais toi, tu vois son cœur. Viens redonner espoir, la force au travail, l'énergie au travail, la vision. Seigneur, je veux te prier spécifiquement pour quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un qui est dans l'église te connaît, mais au fond de cette personne-là, il y a le désespoir, des pensées noires, des pensées qui sont noires. Seigneur, je viens avec autorité. Seigneur, tu lui dis, choisis la vie, n'écoute pas les mensonges de l'ennemi. Ce n'est pas terminé. Peut-être que tu crois que c'est un lieu de défaite, comme la crucifixion, mais c'était un lieu de victoire. Choisis la vie, Dieu va te donner la victoire. Choisis de lui faire confiance ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu guéris toute pensée émotionnelle, toute pensée noire. Tu viens mettre des paroles de vie. Tu viens mettre l'espoir, Seigneur Jésus. Tu es infiniment grand. Tu n'es pas un Dieu éloigné, mais tu es un Dieu présent et personnel. Tu as la même puissance créatrice que tu as créé les cieux et la terre. Tu as cette même puissance pour venir intervenir dans la situation. Nous le déclarons, Seigneur. Seigneur, je te dis merci à l'avance. Merci parce que tu nous aimes, tu nous as choisis. Merci parce que tu as le regard sur nous. Merci parce que tu es notre berger. Tu es ce grand Dieu créateur, mais tu es berger. Et tu as dit, parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Je veux dire à quelqu'un, à son âme, peu importe ta situation financière, Dieu te dit aujourd'hui, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je réclame la provision, Seigneur, le miraculeux financier pour quelqu'un qui a besoin, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Est-ce que des hommes et des femmes dans ce lieu, tu as besoin de les emmener dans des verts pâturages, des eaux paisibles? Je prie en ce moment éternel pour un homme et une femme qui a besoin d'être rafraîchi par toi. Rafraîchi par toi. Tu dis que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces et que nous prenons notre envol comme des aigles. À quelqu'un dans ce lieu, tu l'aides à devenir cet aigle, un aigle qui vole au-dessus des circonstances, un aigle qui vole au-dessus des tempêtes, Seigneur. Seigneur, tu viens rafraîchir. Aujourd'hui, mais dans les prochains jours, je prie que tu viennes rafraîchir par ta parole, par des moments divins avec toi, des réma, Seigneur. Seigneur, tu les conduis dans des verts pâturages. Et tu dis à quelqu'un qui est face à une table d'adversaire, face à un ennemi, tu lui dis que tu es sa justice. Dieu est le juste juge. Dieu est le juste juge. Il va te faire justice. N'y va pas par tes propres forces. Dieu va te faire justice. Relâche, pardonne. Tu donnes la force à quelqu'un ce matin de pardonner. Pardonner ne veut pas dire être dans le déni d'endosser les mauvaises actions. Pardonner, c'est de décider que cette personne-là, ces paroles-là, n'auront plus accès sur notre vie. Alors tu donnes la force à quelqu'un de pardonner, Seigneur Jésus. Rappelle-lui que tu es son juge, sa justice. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Et Seigneur, je m'attends à toi parce que tu es fidèle. Je m'attends à des témoignages parce que tu es le Dieu qui est tout puissant. Tu guéris en ce moment. Tu guéris les cœurs. Tu guéris les âmes. Et tu guéris les corps. Dans le nom de Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais dans ce lieu. Alléluia. Je veux juste confirmer chaque parole que Stéphanie disait. On a eu quelqu'un qui a eu une vision juste avant le culte, qui nous l'ont partagé à l'intercession, qu'il voyait des personnes, deux hommes, un homme où est-ce que Dieu voulait sortir d'une prison de mort et de dépression. Et Stéphanie les a carrément dit exactement. Elle a prié contre la dépression. Et ce matin, si c'était ton cas ce matin, si c'était de toi que ça parlait, on veut savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin, que tu puisses venir nous témoigner, parce que on veut savoir ce que Dieu fait dans les vies. Et ce matin, Seigneur, on veut juste confirmer et dire, Seigneur, que tout ce qui a été fait ce matin, Seigneur, va produire un fruit durable dans les vies ce matin. Seigneur éternel, ces deux personnes, Seigneur, je viens juste mettre un point d'honneur dans le fait que tu agis ce matin. On prie, Seigneur, pour du courage de sortir, Seigneur, de la prison et de marcher dans la pleine liberté et de rester libre, Seigneur Jésus, ce matin. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu as fait ce matin. Merci pour ces paroles d'espoir, Seigneur. On prie, Seigneur, que l'espoir renaît dans tous les domaines des vies ce matin. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Stéphanie est venue avec des livres. Ils sont à l'arrière. Donc, si vous voulez vous procurer un de ces livres, n'hésitez pas à y aller. Si vous n'avez pas d'argent liquide sur vous, vous pouvez payer à la librairie et amener votre coupon à Stéphanie afin que nous, on puisse ensuite lui envoyer les montants. Et elle peut faire des dédicaces pour vos livres. Donc, elle va être à l'arrière avec... À la table. Donc, n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à partager avec elle. Alléluia. Donc, on veut clôturer ce culte. On veut dire un bon dimanche à tous. Si vous étiez en visite au milieu de nous ce matin, vous étiez les bienvenus. On vous bénit dans le nom de Jésus et vraiment une bonne semaine à tous. On ne veut pas partir, c'est ça. Hein? Soyez bénis.